Sur Radio Campus Tours, chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et aujourd'hui nous allons parler du pôle formation UIMMCFAI Centre-Val de Loire. Alors pas de panique si ces acronymes ne vous disent rien pour le moment, car j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio deux invités qui vont nous dire plus précisément de quoi il s'agit. Bonjour Lise Croix.
Bonjour.
Vous êtes conseillère formation, emploi et formation, pardon. Et à côté de vous, Damien Berthet, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes chargé de sourcing.
Oui.
Voilà. Alors tout d'abord, peut-être voulez-vous nous expliquer l'un et l'autre, c'est quoi le pôle formation UIMM CFAI Centre-Val de Loire?
Alors le pôle formation UIMM aujourd'hui regroupe trois entités dont fait partie le CFAI. Nous avons aussi une autre entité qui s'appelle l'AFPI. Et une troisième qui s'appelle Trajectoire Industrie. Aujourd'hui, avec Damien, nous travaillons pour le CFAI Centre-Val de Loire, le CFAI qui est le centre de formation des apprentis de l'industrie, plus précisément.
Alors, ces trois instances que vous avez nommées, est-ce que vous pouvez juste nous en dire un peu plus? Parce que pour des personnes, peut-être parmi nos auditeurs, qui ne connaissent pas du tout ce domaine de compétences et de formation, peut-être que ce n'est pas très clair.
Oui, Damien, est-ce que tu veux répondre?
Pour faire simple, donc le CFAI, c'est le centre de formation des apprentis. Donc là, on est vraiment pour plus à destination des jeunes qui veulent faire un cursus initial, hein, du CAP jusqu'au BTS, voire après aller au-delà avec une école d'ingénieurs. Ensuite, on a l'AFPI. Là, c'est plus la formation continue. Ça s'adresse plus à un public adulte, soit demandeur d'emploi ou salarié. Et Trajectoire Industrie, là, c'est vraiment focalisé sur le demandeur d'emploi pour lui proposer des solutions, toujours pareil, de formation. Ces trois entités-là, c'est dans tous les cas pour faire de la formation vers les métiers de l'industrie.
Voilà, donc les métiers de l'industrie, c'est peut-être ça qui est à signaler, parce que UIMM, ça veut dire quoi? Peut-être qu'on peut le rappeler.
L'Union de l'industrie des métiers de la métallurgie.
Voilà, et donc est-ce que vous voulez nous expliquer quelle est votre fonction à chacun d'entre vous justement au sein de cette structure?
Oui, alors je vais commencer et puis après je laisserai la parole à mon collègue. Donc moi je suis conseillère emploi formation et j'aime à dire que je fais un petit peu le mariage entre les entreprises qui ont des besoins en apprentissage et les jeunes qui souhaitent intégrer le CFA en tant qu'apprenti et à trouver en fait leur alternance au sein des entreprises. Donc voilà, je fais un petit peu la relation entre les entreprises qui ont des besoins et les jeunes qui recherchent une alternance pour leur formation au sein du CFA.
Et moi, en tant que chargé de sourcing, en fait, je suis, on va dire, le premier intervenant, justement, avant ce beau mariage entre le jeune et l'entreprise. Je suis là pour aller à l'approche, justement, des jeunes. Aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance du milieu industriel sur la nouvelle génération. Donc, mon rôle est vraiment d'aller auprès des prescripteurs, que ce soit les missions locales, l'école de la deuxième chance à Tours, ou tout ce genre d'instance, voilà, exactement, pour faire découvrir aux jeunes les métiers de l'industrie, les formations possibles à travers des présentations, des petites vidéos, des ateliers, tout ce genre de choses.
Alors, une dame mariante et un chasseur de tête, entre guillemets.
C'est presque ça. C'est presque ça.
Donc, est-ce à dire que ce secteur est porteur, en fait? Parce que, voilà, on entend souvent, le secteur industriel est en déclin, voilà, faut pas faire ça, machin.
Alors non, c'est faux.
Non.
Bien sûr que c'est porteur, notamment sur les métiers de la maintenance industrielle. C'est vrai que c'est un secteur qui explose en ce moment. On a énormément de besoins sur de la maintenance industrielle. Alors, quand je vous parle de maintenance industrielle, pour imager un petit peu, c'est exactement comme quand vous entretenez votre véhicule et que vous l'emmenez au garagiste. Eh bien, il faut simplement pouvoir le maintenir en état de fonctionner. La maintenance industrielle, c'est maintenir en état de bon fonctionnement les machines industrielles qui produisent dans les grandes entreprises industrielles. Donc c'est vrai que ce secteur-là particulièrement est porteur et on est un peu en pénurie de jeunes sur ce secteur-là parce que les entreprises ont de nombreux besoins que l'on n'arrive pas forcément à combler toute l'année.
Il y a une vraie évolution des technologies aussi et des moyens au sein de l'industrie. On parle aujourd'hui d'industrie 4.0. Donc forcément, c'est des métiers maintenant sur lesquels il faut de la formation à la base. On ne peut plus rentrer sur des postes. Avant, on pouvait rentrer dans l'industrie un peu plus facilement. Aujourd'hui, peu importe le poste qu'on veut faire, que ce soit de technicien de maintenance ou que ce soit après même en tant qu'opérateur de fabrication, ce genre de choses, on utilise de la technologie, on utilise des machines. Et sans formation, c'est vraiment très difficile aujourd'hui de rentrer dans l'industrie. C'est un peu notre rôle justement de faire découvrir ce côté-là parce qu'il y a beaucoup d'offres. On a un beau bassin industriel sur la région de Tours et en plus de ça, c'est des métiers qui payent plutôt bien pour les jeunes, qu'il y a des vraies possibilités de carrière. Et donc aujourd'hui, c'est ce que recherche aussi cette nouvelle génération.
Est-ce que vous voulez nous en dire plus justement sur les formations qui sont proposées par votre structure ?
Oui. Alors, comme le disait mon collègue, on forme aujourd'hui du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur, en passant par le bac, le BTS, bien sûr, sur différents métiers liés à l'industrie. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la maintenance industrielle. Je pense que ça y est, vous avez un petit peu cerné le métier de technicien de maintenance. On a aussi une formation sur de l'usinage. Alors, de l'usinage, on va partir d'une matière première brute. Et par enlèvement de matière, on va pouvoir en faire une pièce, en fabriquer une pièce destinée dans différents secteurs industriels en fonction des besoins. Donc ça, c'est l'usinage. On fait aussi des métiers de l'électricité. Donc comme son nom l'indique, on va former des techniciens en électricité qui vont pouvoir lire, comprendre, diagnostiquer des schémas électriques, câbler. Donc ça c'est les trois formations potentielles qu'on a sur Amboise, mais on est un CFA régional. On a quatre CFA en région centre, donc un qui est sur Amboise dans le 37, un qui est sur la Chapelle Saint-Mémin dans le 45, un à Châteaudun dans le 28 et un à Bourges dans le 18. Et sur lesquels on forme aussi à de la chaudronnerie industrielle, soudure, et puis aussi en automatisme plutôt, sur de la robotique, sur ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que c'est assez vaste et riche en termes de formation, tout comme les métiers de l'industrie sont nombreux au sein des entreprises qui ne sont pas forcément visibles. D'ailleurs, quand on passe devant une industrie, on ne sait pas ce qu'il y a comme métier derrière.
Et alors ces formations, elles sont accessibles, vous l'avez dit, à partir du CAP, donc ça peut être aussi pour des personnes qui n'ont pas le bac.
Oui, on peut très bien intégrer le CFAI en troisième. Le CAP, à l'heure actuelle, on n'a qu'un seul CAP, c'est un CAP en chaudronnerie, parce que ce CAP permet d'avoir vraiment une connaissance technique à la fin du CAP et de pouvoir directement travailler. Sinon, on va aujourd'hui passer par du bac, le bac pro en apprentissage aujourd'hui est sur 3 ans, Donc, la plupart des jeunes qui sortent de 3e vont s'orienter vers des bacs pro, mais ça peut être aussi à quelqu'un qui veut se réorienter et qui serait prêt à reprendre ses études. On peut faire de l'apprentissage jusqu'à 30 ans dans les grandes règles, mais on peut après aussi faire ce qu'on appelle des contrats de professionnalisation. On a tous les ans des personnes qui veulent reprendre leurs études et qui se réorientent comme ça. Voilà, donc c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu ouvert à tout le monde. Il faut avoir envie de reprendre ses études et puis aussi être en phase avec ce système d'alternance, d'apprentissage. Forcément, vu qu'on est des CFAI, toutes nos formations se font en apprentissage. On est sur une alternance 15 jours, 15 jours. 15 jours entreprise, 15 jours au CFAI. Et donc, ça permet de, en même temps, acquérir les connaissances techniques, d'avoir une vraie expérience professionnelle quand on sort du diplôme.
Et ça permet d'être rémunéré aussi ?
Aussi.
Oui, bien sûr. La rémunération, elle rentre en compte à partir du moment où on signe le contrat d'apprentissage. On devient un vrai salarié d'entreprise. L'apprenti devient un vrai salarié. Quand il est en cours au CFA, il est rémunéré comme un salarié typique de l'entreprise qui passerait 100% de son temps sur son poste de travail. Donc, on responsabilise aussi un petit peu les jeunes qui souhaitent intégrer le CFA chez nous en leur disant qu'ils deviennent salariés d'entreprise. Donc, on attend des grandes responsabilités de leur part. La rémunération, elle dépend donc de l'année de formation, elle dépend de l'âge de la personne et aussi de la convention collective de l'entreprise. Mais à peu près, un jeune de 18 ans qui rentre chez nous peut commencer à 45% du SMIC.
Ce qui fait un montant de à peu près.
Environ, on va dire à peu près 800 euros par mois,
voilà.
En sachant qu'en plus, chez les apprentis, le brut équivaut au net, donc il n'y a pas de charge salariale, donc ils arrivent quand même à avoir des salaires qui sont plutôt confortables. Un jeune, à l'inverse, qui sortirait de 3e et qui rentrerait donc sur sa première année, donc qui n'a pas encore 18 ans, lui, forcément, il serait en deçà de ce salaire-là. Il va commencer, on va dire, sa première année aux alentours de 400 euros. Ce qui permet quand même déjà de pouvoir prévoir s'il y a frais de déplacement, de logement, ce genre de choses, en sachant qu'on a, nous, sur nos CFAI, des foyers qui permettent aussi, quand les jeunes, parce qu'on sait, en région centre, le nerf de la guerre, c'est aussi un peu la mobilité pour les jeunes. Donc on a cette possibilité de leur offrir déjà une solution les 15 jours où ils sont au CFAI, leur proposer une solution, parce qu'après, forcément, il y a un petit coût à leur charge. Mais ça permet de d'allier études et rémunération, effectivement.
Alors, sur ces dispositifs, comment dire, parce que nous sommes la radio étudiante, et je pense qu'il y a quelque chose qui fait très peur à une partie de nos auditeurs, c'est Parcoursup. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut passer par Parcoursup si on veut entrer en formation chez vous ?
Alors, pour le BTS, normalement, quand vous sortez de bac et que vous voulez rentrer en BTS, oui, il faut passer par Parcoursup. Il faut formuler un vœu sur Parcoursup. Attention, les vœux en apprentissage, c'est un peu différent qu'un vœu classique. Il n'y a pas la même temporalité, il n'y a pas les mêmes dates. Là, normalement, je crois que les vœux Parcoursup s'arrêtaient le 29 mars, quelque chose comme ça. Les vœux en apprentissage, ils peuvent être faits plus longs dans le temps, parce que forcément, on a conscience qu'en apprentissage, ce qui va aussi dépendre après de l'acceptation, c'est d'avoir l'entreprise derrière. Donc là, c'est le rôle de Lise d'accompagner les jeunes sur la recherche d'entreprise. Mais du coup, Parcoursup, pour nous, c'est presque une formalité, parce que c'est comme ça. Il faut qu'un jeune qui sorte de bac passe par Parcoursup, c'est pas nous qui l'avons décidé. Mais par contre, un jeune qui n'aurait pas fait un vœu chez nous, et puis qui finalement se décide, en avril, de se dire, oui, finalement, je vais faire de l'apprentissage, je vais passer par le CFAI, c'est pas parce qu'il a pas fait un vœu au début sur Parcoursup qu'on pourra pas nous l'intégrer, et puis faire un vœu tardif, entre guillemets, juste pour la formalité, en fait. Le plus important pour un jeune, plus que Parcoursup aujourd'hui, un jeune qui voudrait venir chez nous, c'est qu'il s'inscrive sur notre site internet, cfai-centre.fr. Ça nous permet après nous d'avoir son contact, on lui demande son bulletin, son CV. Et après, vraiment, c'est ça qui va déclencher la prise de contact après de Lise pour justement accompagner le jeune dans sa recherche d'entreprise. C'est vraiment la force du CFAI aujourd'hui, c'est que beaucoup de CFA vont vous dire pour intégrer chez nous, tu trouves d'abord l'entreprise et puis tu reviens ensuite t'inscrire. Nous, on fonctionne à l'inverse. On a beaucoup d'offres grâce à notre réseau. Et donc forcément, on va plutôt dire à un jeune, viens t'inscrire, on va t'accompagner dans cette recherche d'entreprise. On va revoir avec toi s'il y a besoin ton CV. On va t'aider, par exemple, s'il faut faire des simulations d'entretien, ce genre de choses. Voilà.
Et alors sur, je vois poindre une autre inquiétude, parce que vous avez mentionné un dossier où il faut envoyer un CV, peut-être ses bulletins. Alors si jamais on a des jeunes qui nous écoutent et qui disent « Oula, moi justement j'ai envie de me tourner vers le CFA parce que clairement être assis en cours, c'est pas mon truc. Et puis j'ai pas excellé cette année en cours. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils peuvent quand même tenter leur chance ou est-ce qu'ils vont
Évidemment, on a tous le droit à une seconde, une troisième chance s'il le faut. Nous, ce qu'on regarde particulièrement sur les bulletins, c'est aussi beaucoup le comportement et les appréciations des professeurs ou des formateurs en fonction du passif du jeune. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on attend d'un jeune qui rentre en apprentissage chez nous, c'est un comportement exemplaire en tant que salarié d'entreprise. Ils vont devenir salariés, alors oui, ils vont quand même avoir ce statut d'apprenti, d'apprenant au CFA, qu'on attend toujours d'un étudiant, si vous voulez, lambda. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder plus particulièrement, c'est le comportement. Voilà, pas forcément les notes, on a tous le droit à une deuxième chance.
Et alors, si c'est des jeunes qui, par exemple, auraient des lacunes dans une matière ou dans une autre ? Donc là, comment ça se passe, par exemple, je suppose, en français ou en maths, comment ça se passe ?
Alors,
attention, c'est le même diplôme qui va préparer en apprentissage que dans une formation initiale. Donc ce que vont avoir les collègues qui sont en formation initiale, ils vont peut-être mettre un mois pour apprendre les choses. Nous, sur une alternance de 15 jours, il y a des moments où le programme, forcément, sera un peu plus chargé. Donc après, l'avantage aussi au CFAI, c'est qu'on a des petits groupes. Ils sont 12 à peu près par classe. Donc ça permet aussi d'identifier justement ces lacunes-là un peu plus facilement. Et puis nos formateurs, ce sont tous des formateurs qui sont passés par, entre guillemets, le monde professionnel. Hein. Ce ne sont pas des professeurs de l'éducation nationale, ce sont vraiment des formateurs. Donc ils ont aussi cette capacité-là, des fois, à identifier un petit peu ce qui pourrait pêcher après, dans cet univers professionnel, et accompagner au mieux l'apprenti. Toujours pareil, il faut que l'apprenti nous montre qu'il ait envie. C'est ce que disait Lise. C'est pour ça qu'on est très vigilant sur les appréciations et sur la motivation du jeune quand il s'inscrit chez nous, bien plus que sur les notes. Parce qu'un jeune qui a envie, une note mauvaise en maths ou en français, avec le travail derrière, ça peut quand même s'améliorer. On ne dit pas qu'on arrivera à des résultats formidables, mais ça peut s'améliorer. Le comportement ou l'attitude ou le savoir-être, là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile à inculquer si le jeune n'en a pas forcément envie ou pas à la base.
Alors vous avez mentionné aussi tout à l'heure l'école de la deuxième chance et la mission locale, qui sont aussi des structures avec lesquelles nous avions eu la chance en tant que radio de faire des émissions. Donc j'aimerais que vous nous en disiez plus en fait sur les jeunes gens qui sont repérés peut-être par ces ouais. structures. Comment ça se passe?
Bien sûr. Alors en fait, moi c'est ce que j'appelle des prescripteurs, hein, ce genre d'établissement. Je travaille avec eux sur plein de choses. C'est-à-dire que je peux venir auprès des groupes qui sont chez eux pour leur présenter par exemple les métiers de l'industrie, hein, leur faire découvrir ce métier-là. Avec le 2C, il m'arrive aussi de participer à des speed training pour justement faire des simulations d'entretien pour aider ces jeunes. On est d'accord que dans ces structures-là, ce sont des jeunes qui sont sortis du système classique, du système scolaire, qui ont normalement, c'est à partir de 16 ans, et qui sont dans un procédé de réorientation. Et donc moi, l'idée, c'est vraiment qu'on travaille ensemble. Tous les jeunes, forcément, qui sont à l'E2C ou à la mission locale, ne vont pas être séduits par l'industrie. Mais je ne suis pas là que pour leur parler d'industrie. Je suis là aussi pour les aider quand je peux, entre guillemets, m'allier à eux pour justement des ateliers, CV, entretiens, ce genre de choses. On a un dispositif qui vient de démarrer là la semaine dernière qui s'appelle la prépa apprentissage, qui est porté par le gouvernement, hein, qui avait été mis en place par Emmanuel Macron sur le plan Un jeune, une solution. C'est un dispositif de 8 semaines qui démarre dans les CFA, où en fait on va prendre des jeunes pour leur faire découvrir, c'est une immersion vraiment au sein du CFAI. Ils sont 8 semaines et ils ont 2 semaines de stage pendant ces 8 semaines où ils sont au CFAI pour leur faire découvrir les métiers de l'industrie. Typiquement, la mission locale de Tours m'a, entre guillemets, renvoyé 2 jeunes qui avaient arrêté leurs études il y a peu et qui ne savaient pas trop ce qui pouvait les intéresser. Je les ai rencontrés, je leur ai parlé industrie, je leur ai parlé maintenance, notamment sur le côté un peu mécanique et ainsi de suite. Et du coup, ils ont intégré le dispositif. Ça marche vraiment dans les deux sens.
Et alors, une autre question, je connais un peu la réponse, mais est-ce qu'il y a des filles? Parce que là...
Là pour le coup je vais laisser répondre Lise, on va laisser répondre une fille, il y en a une déjà aujourd'hui dans l'industrie.
Je suis là. Non, c'est vrai qu'il y a quand même très peu de filles. Je crois que sur le nombre d'apprentis au CFAI, sur 220 à peu près d'apprentis au CFA à Amboise, nous avons 5 filles. Voilà, donc non, nous avons très peu de femmes dans l'industrie. C'est aussi un peu notre cheval de bataille d'essayer d'intégrer un maximum de femmes dans l'industrie, leur dire que c'est pas forcément plus dur pour elles que pour les hommes. Et dans ce fameux dispositif prépa-apprentissage, on a intégré une fille qui avait un CAP mécanique à la base et qui était plutôt manuelle et qui est plutôt intéressée par les métiers de l'usinage. Donc de la fabrication de pièces. Donc on essaye hein, un maximum de leur faire aimer, mais voilà, on en a encore trop peu, je pense.
Malheureusement, ça fait partie des idées reçues sur lesquelles on se bat avec Lise au quotidien. Hein. On a conscience qu'il y a une image un petit peu, des fois un peu terne hein, de l'industrie. On pensait des fois industrie, travail à la chaîne, difficulté sur les postes, port de charge ou ce genre de choses. Aujourd'hui, l'industrie, elle a vraiment changé. Il y a ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, qui a été mis en place dans beaucoup de ces grosses entreprises. Et donc, c'est vraiment des postes qui sont ouverts à tout le monde aujourd'hui. Et malheureusement, pas qu'aux garçons.
Alors, je vais vous proposer, chers auditeurs et chers invités, d'écouter justement un portrait, d'une Fanny alternante ingénieure en électronique. Donc, c'est à retrouver sur la chaîne YouTube du CFAI. Et on se retrouve tout de suite après.
Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et je suis alternante en électronique. Après le bac, j'ai fait un DUT, puis une école d'ingénieur en apprentissage. Et aujourd'hui, je pars faire un semestre en Norvège. J'ai découvert le monde de l'électronique grâce à mon grand-père qui travaillait dans l'aéronautique et ça m'a tout de suite donné envie de comprendre comment fonctionnaient les avions. Je travaille dans le domaine de l'imagerie médicale chez Thales. L'équipe que j'ai intégrée teste le bon fonctionnement et la fiabilité des détecteurs radiologiques utilisés en hôpitaux. Mon travail consiste à traiter les images obtenues par les capteurs afin qu'elles puissent être utilisées par les radiologues. Ce qui me plaît, c'est de comprendre comment fonctionnent ces appareils complexes et comment on peut obtenir une image à partir de rayons X. Ma passion, c'est le piano. Je la pratique depuis que je suis toute petite et je pense que ça m'a permis d'être plus minutieuse et plus concentrée dans mon travail. L'apprentissage, au-delà des compétences techniques, ça m'a surtout apporté au niveau relationnel, le fait de pouvoir collaborer avec des personnes et d'évoluer au sein d'un monde d'adultes. J'ai envie d'approfondir cet aspect humain en poursuivant dans un master spécialisé en management de projet, toujours en alternance. C'est aussi grâce à l'alternance que je vais pouvoir effectuer un semestre universitaire à l'étranger et ça me permettra de découvrir de nouvelles méthodes de travail. Mon projet pour l'avenir, ce serait de travailler dans le domaine de l'aéronautique qui me passionne depuis le début de mes études. Je m'appelle Fanny, j'ai 21 ans et l'apprentissage me permet de mieux me connaître et de mieux travailler en équipe.
Fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM.
Voilà un spot, un portrait d'une alternante voilà, qui est au CFA Centre-Val-de-Loire. Alors un parcours comme celui-là, est-ce que c'est rare ?
Alors non, pas forcément, surtout sur des, comment dire, sur des projets bien définis à la base. On rencontre souvent des jeunes qui ont leur projet qui est défini dans leur tête avant même d'intégrer le CFAI Centre. Quand ils souhaitent intégrer un BTS, ils souhaitent souvent continuer derrière sur des diplômes d'ingénieur parce que, un petit peu comme Fanny qui a son grand-père qui travaillait dans l'aéronautique, ils ont souvent de la famille ou des connaissances qui eux-mêmes ont travaillé dans des grandes entreprises ou qui connaissaient ces métiers-là, qui sont plutôt passionnés. Donc en effet, sur des jeunes qui ont des projets bien définis, on a souvent ce type de carrière, entre guillemets, notamment à partir du moment où on a un pied dans une entreprise pour notre alternance. Et ben, c'est plutôt facile de continuer derrière et d'aboutir son projet final.
On a des jeunes qui sont rentrés chez nous en nous disant « moi je vais juste faire un bac pro et m'arrêter ». Et une fois portés par ce système d'alternance et puis portés par l'entreprise dans laquelle ils sont, ça va leur donner envie, ils vont se dire « ah bah tiens, pourquoi pas effectivement tenter le BTS ». Et puis après le BTS, ah bah oui, bah tiens, pourquoi pas, voilà, tenter d'aller plus loin à un bachelor, une licence ou une école d'ingénieur.
Alors après, ce qu'on entend aussi dans ce portrait de Fanny, c'est qu'il y a là, pour le coup, il y a une culture familiale autour de l'industrie, des métiers techniques et une connaissance aussi de ces dispositifs-là. Donc c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, que c'est très mal connu, que ça peut aussi sembler peut-être des filières entre guillemets moins prestigieuses que d'autres. Or là, on voit que c'est une voie pour faire des études d'ingénieur.
C'est ça, c'est vraiment aujourd'hui le problème, c'est la méconnaissance, hein. C'est le problème numéro un aujourd'hui de l'industrie, c'est cette méconnaissance. Je prends souvent l'exemple, vous savez, aujourd'hui, beaucoup quand on va à la boulangerie, ils ont cassé le mur entre le laboratoire et la partie magasin, pour que les gens, en fait, se rendent compte de ce que c'est qu'être le métier de boulanger. Dans l'industrie, il n'y a pas ça. C'est ce que disait Lise tout à l'heure. On passe tous les jours hein, devant des gros bâtiments où c'est écrit, par exemple, à Tours, ST Microelectronics, SKF, enfin voilà, ce genre de bâtiment, sans savoir ce qui se passe dedans, sans savoir les métiers qui en découlent et surtout les carrières qu'on peut y faire. Donc, à part des gens comme là, le portrait qu'on vient d'écouter de Fanny, qui savait déjà, comme disait Lise, vraiment ce qu'elle avait envie de faire à la base et puis vers où elle allait aller. Sinon, c'est plus des fois des jeunes qui sont passés par justement des portes ouvertes ou des actions qu'on a pu mener et qui se sont dit « ah bah tiens, oui, pourquoi pas, je vais aller voir ce qui se passe dans ces métiers-là ». Là les portes ouvertes sont passées hein. La plupart des écoles ont fait leurs portes ouvertes en février-mars, mais nous à Amboise on a la chance d'avoir un responsable de site, monsieur Arruero, qui nous propose de faire des portes ouvertes à l'année, c'est-à-dire peu importe à quel moment de l'année un jeune ou un moins jeune qui voudrait découvrir ce que c'est que cet univers un peu industriel, puisqu'on a des plateaux techniques sur le CFAI, donc on peut vraiment se rendre compte de ces métiers-là. Il suffit de nous passer un petit coup de téléphone ou de passer par notre site internet. Et bien sûr, on l'accueille et on lui fait visiter nos plateaux techniques et on fait un rendez-vous un peu personnalisé. Portes ouvertes toute l'année.
À bons entendeurs. Et alors, dans ce portrait, il est aussi question d'aller un semestre à l'étranger. Alors ça, comment c'est possible?
Oui, alors sur les diplômes d'ingénieur, il y a une immersion à l'étranger qui est obligatoire, qui est portée par notre partenaire Polytech Tours et Polytech Orléans également. Donc voilà, ça c'est sur la partir du moment où on est rentré sur un diplôme d'ingénieur, c'est un semestre obligatoire à effectuer à l'étranger pour valider son diplôme d'ingénieur sur une période à l'étranger.
L'alternance est un peu différente, hein. Je vous parlais d'alternance 15 jours, hein. Donc ça va jusqu'au BTS, par contre du moment où on passe sur des cycles supérieurs, l'alternance peut être vraiment différente. Je crois que les ingénieurs, la première année c'est un mois, la deuxième année c'est trois mois, et la dernière année d'ingénieur, parce que c'est 3 ans un cursus d'ingénieur, ça va être six mois.
Et alors comment dire, parce que là, pour qu'on comprenne bien, quels sont les liens avec Polytech, ça veut dire que par la voie du CFAI, on débouche sur le même diplôme Polytech qu'un étudiant
C'est exactement le même diplôme Polytech à la fin, hein, c'est un diplôme d'ingénieur de Polytech, seulement il est porté par le CFAI, enfin par une entité qui s'appelle IT2I, mais c'est le pôle formation, ce qui permet de faire le même diplôme en apprentissage. C'est juste que la filière, là, elle est en apprentissage, mais ils sont présents là à Polytech Tours et ils ont à la fin un diplôme équivalent qu'un étudiant qui a fait son cursus pas en apprentissage à Polytech.
Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir peut-être pour certains jeunes qui se disent « Oh là là, moi je ne suis pas scolaire, ça m'embête d'aller, j'aimerais être ingénieur, mais je ne suis pas capable, entre guillemets, parce que je ne peux pas faire le parcours standard. »
Oui, ça peut être rassurant, mais comme je vous disais encore une fois, c'est qu'à partir du moment où on a un pied dans l'entreprise, on est porté hein, par cette entreprise, comme le disait mon collègue, et par le projet qu'on a envie de réaliser. Donc oui, il est tout à fait possible que des jeunes qui passent par ce cursus d'alternance et d'apprentissage puissent continuer jusqu'en diplôme d'ingénieur sans aucun problème.
Après, disons que les difficultés, les contraintes sont différentes, puisque vous avez souligné que quand même, on est salarié d'une entreprise, donc il n'est pas question de faire n'importe quoi.
Oui, on devient salarié d'entreprise, donc on a des droits et des devoirs. On a, comme on dit tout à l'heure, un petit salaire, on a une rémunération, mais tout travail mérite salaire, donc voilà.
À l'inverse, sur du cursus ingénieur, on a moins de problèmes hein, de comportement. Hein. C'est des gens plus âgés qui ont vraiment envie d'aller au bout de leur cursus. Par contre, quand on a des jeunes qui sortent de troisième et qui deviennent salariés, avec Lise, on leur fait un petit topo sur attention, les vacances scolaires, ça n'existe plus. C'est 5 semaines de congés par an. Le petit mot de maman le matin qui dit que tu as mal au ventre, ça ne marchera pas. Comme tout bon salarié, il faut après respecter le droit du travail. Donc arrêt de travail en cas de maladie. Et puis voilà, 5 semaines de congés par an. Mais on s'y fait bien, c'est pas si pire.
Est-ce que vous les voyez changer, ces jeunes gens que vous accompagnez à partir du moment où vous leur dites justement on n'arrive plus en retard parce qu'on a raté le bus, et du coup est-ce que vous les voyez grandir?
Oui, on les voit évoluer, mais rien qu'en 3 ans de bac hein, chez nous, quand ils sont arrivés en sortie de 3e, un petit peu timide, un petit peu, je ne sais pas, pas sûr d'eux, hein, voilà, hein, je ne sais pas si je vais y arriver, c'est quand même compliqué, c'est des grosses responsabilités, hein, c'est vrai que quand on sort de collège et qu'on devient salarié d'entreprise, alors ça peut faire peur aux jeunes, mais ça peut aussi faire peur à papa et maman qui sont derrière, donc il faut aussi rassurer un petit peu tout le monde. Mais oui, on les voit vraiment évoluer à partir du moment où ils rentrent en seconde et quand ils passent en terminale, et qu'on leur dit alors c'est bientôt le bac, et bah ouais, en 3 ans ils ont quand même une évolution aussi bien personnelle que professionnelle assez étonnante.
Je voudrais qu'on écoute un autre portrait, alors là il n'y a pas le nom, on va le découvrir je pense en l'écoutant, et donc là il est question d'un bac pro. Donc, on écoute ce second portrait et on se retrouve tout de suite après dans la Méridienne.
Je m'appelle Clément Azevedo, je suis apprenti en informatique à la mairie de Joël-lès-Tours et je suis en cours CFA d'Amboise en section Seine. Mon entreprise, c'est la mairie de Joël-lès-Tours, je suis dans le service informatique. On est 9 employés dans ce service et je suis sous la tutelle de Nicolas Carabin, chargé d'exploitation informatique. Mon rôle et celui de mon tuteur, c'est chargé d'exploitation en informatique. On est polyvalent dans le système informatique, on touche au réseau, à l'électricité informatique, plusieurs choses. En ce moment, on rassainit les baies de brassage de la ville de Jouy-les-Tours. On rassainit toute l'infrastructure réseau, les serveurs. On rénove le matériel parce qu'il commence à être vieux et plus trop utile. L'ambiance est cool avec tous les collègues. Je m'entends bien avec tout le monde. Ils m'apportent beaucoup de connaissances. J'ai trouvé cette entreprise en cherchant au dernier moment, au mois d'août. J'ai eu beaucoup de chance parce que depuis en début d'année 2016, j'ai cherché que des refus jusqu'à ce moment. Monsieur Lenoac m'a aidé pour trouver l'entreprise, il m'a accompagné et puis grâce à lui, je m'en suis très bien sorti. Le côté alternance, j'ai trouvé ça cool. Ça fait un moment que je pratique, j'ai déjà fait un CAP. Et je trouve ça cool car ça coupe la routine. On voit travail et cours en même temps. Ça permet d'avoir de la théorie et de la pratique. Ça apporte de l'argent, des vacances quand on le souhaite et quand on le peut. Et une liberté qu'on n'a pas en étant étudiant sur un chemin classique. Le CFA, ça se passe bien, les profs sont cool, ils nous font bien avancer dans nos cours. Oh, avec les autres élèves, je me sens bien. Il y a une bonne ambiance en classe. Bah, moi, j'avais déjà des connaissances. Et après, on s'est regroupés, disons. Au début, j'étais tout seul avec un ami, après, on est devenus 3, 4, 5. Cool. On s'entraide sur les cours, on s'aide, on... Mon formateur référent, Monsieur PRS, c'est un bon prof. Il est cool, il sait bien expliquer les choses, faire la part des choses. En général, en dehors des cours, je sors, je vois des amis qui sont ici. Sinon, je suis avec ma copine ou je joue aux jeux vidéo entre potes en ligne, tout ça. Je fais pas mal de choses. Cinéma, bowling, bar, tout ce qui va ensemble. Après mon bac, j'ai prévu de faire un BTS. En SISR, en formation réseau. Toujours en alternance. J'ai prévu de le faire en alternance, oui. Pour mon BTS, je reste dans la même entreprise car ça se passe bien et je me sens bien avec eux et je sens que je peux continuer loin.
Je vous vois réagir dans le studio en écoutant ce portrait.
C'est un beau portrait d'alternant et voilà, d'un jeune qui explique avec ses mots ce qu'il vit. Par contre, il y a trois choses dans ce petit portrait qui n'existent plus, notamment le diplôme SN hein, qu'on ne fait plus nous au CFAI, donc le diplôme système numérique. Aujourd'hui, on va plus orienter les jeunes vers le bac pro MELEC, hein, qui est l'électricité et les environnements connectés. Mais effectivement, c'est un diplôme qui avait encore jusqu'à cette année au CFAI d'Amboise. Monsieur Lenoac n'est plus là, c'est Lise, la conseillère emploi formation maintenant sur le département. Et Monsieur Pérez, le formateur, a quitté le CFAI. Donc voilà, c'était juste les trois petites choses qui nous ont fait sourire, parce que dans ce portrait-là, même si tout ce qui est dit sur le fond est véridique, ce que vit ce jeune homme, c'est un peu ce qu'on vous expliquait depuis le début, hein, cette envie d'évoluer dans l'entreprise et puis de continuer ses études. Mais voilà, il y avait ces trois petites choses qui sont plus d'actualité.
Voilà, donc archive 2020, hein, précisons-le, ouais. Voilà, donc c'est toujours en ligne.
C'est ça, il faudrait qu'on fasse un peu du tri dans nos archives.
Bah, ou alors les remonter et couper juste, voilà. Ou alors faire des vidéos avec Lise.
Tout à fait.
voilà, alors justement, Lise, est-ce que vous voulez nous en dire plus sur comment vous allez à la rencontre des entreprises? Parce que vous avez expliqué qu'il y a des entreprises, certaines ont besoin, d'autres c'est des fois des jeunes qui arrivent en cherchant une entreprise. Comment ça se passe?
Alors, on a plusieurs procédés. En effet, il y a des jeunes qui arrivent déjà avec des entreprises qu'eux-mêmes connaissent. À partir du moment où le jeune a trouvé une entreprise, on prend contact systématiquement avec cette entreprise pour vérifier que les missions qui vont être réalisées en entreprise correspondent bien au référentiel du diplôme qui est demandé, notamment sur parfois des niveaux BTS. On a des projets hein, à réaliser en deuxième année. Enfin, les jeunes ont des projets à réaliser en deuxième année. Et sur certaines entreprises, c'est pas forcément possible d'accompagner le jeune jusqu'au bout de cette deuxième année. Donc voilà. Moi, mon rôle, c'est surtout d'accompagner les jeunes vers la bonne entreprise pour répondre aussi bien aux besoins de l'entreprise qu'aux besoins du diplôme du jeune. Donc, on a ce cas de figure-là où les jeunes arrivent avec des entreprises connues. On a le cas de figure où, en effet, on a l'habitude de travailler avec des entreprises tous les ans qui nous prennent de nouveaux apprentis sur les nouvelles campagnes. On a aussi ces entreprises qui, par exemple, ont terminé un cursus avec un jeune sur un bac pro en 3 ans, qui ne peuvent pas continuer en BTS parce que, comme je vous disais, la structure n'est pas forcément assez importante ou en tout cas le projet n'est pas en adéquation, qui souhaitent reprendre du coup un nouvel alternant sur un cursus de 3 ans. Donc ça, c'est encore des entreprises connues. Et mon rôle, c'est aussi d'aller chercher chercher des entreprises que l'on ne connaît pas. Donc je peux très bien les appeler, leur envoyer un petit mail ou encore aller frapper à leur porte voilà, pour nous faire connaître, pour vendre un petit peu nos formations au sein du CFA en leur montrant qu'on existe. On peut aussi les inviter à venir à notre rencontre au sein du CFA, visiter nos plateaux techniques, qui se rendent compte un petit peu au niveau justement technique ce qu'on pourrait leur apporter. Ils peuvent également échanger avec nos formateurs référents. Mais voilà un petit peu l'étendue de mes actions par rapport aux entreprises et la manière dont ça fonctionne.
Alors vous avez mentionné le référentiel de compétences, c'est quoi ?
Le référentiel du diplôme, tout simplement, que l'on retrouve sur tous les diplômes, qui est obligatoire, hein, c'est un référentiel que l'Éducation nationale a mis en place, surtout sur chaque diplôme, qui est obligé d'être respecté pour valider et obtenir le diplôme à la fin de l'année.
Alors, outre la qualité des formations, c'est quoi vos arguments de vente pour convaincre une nouvelle entreprise ? Est-ce qu'il y a des avantages pour ces structures ?
Alors, je pense que notre premier avantage, c'est le rythme d'alternance qui est du coup de deux semaines. Ça permet sur deux semaines entières de mener un projet en entreprise de A à Z pour un jeune. S'il est coupé, par exemple, de deux jours, trois jours. Enfin, voilà. En tout cas, ce qu'on met en avant par rapport à nous, notre argumentaire, c'est vraiment le rythme d'alternance qui plaît aux entreprises par rapport aux projets que peuvent mener les jeunes en entreprise.
Mais est-ce qu'il y a des aides financières, par exemple ? Parce qu'il y a peut-être des structures qui vont dire « Ah oui, mais un jeune, il faut l'accueillir, donc c'est un salaire en plus, ça coûte cher. »
Oui. Alors, oui, il y a des aides qui ont été mises en place, justement, suite à cette fameuse crise Covid, qui sont encore, normalement, d'actualité jusqu'au mois de juin, jusqu'au 31 juin inclus, à nous faire valider en fonction des modalités de signature du contrat, si c'est avant le 31 juin ou après. Enfin, voilà, c'est encore des petites choses qui dans les... Enfin, pour lesquels on n'a pas toutes les tenants et les aboutissants. En tout cas, il y a encore des aides qui sont valables pour les entreprises. Pour l'embauche d'un jeune mineur, c'est une aide de 5 000 euros. Pour l'embauche d'un jeune majeur, c'est de 8 000 euros.
Voilà, donc ça représente quoi comme reste à charge en fait ? Parce que j'imagine les gens en train de compter du coup si on a 8 000 euros.
Alors après c'est un petit peu particulier, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Il y a cette fameuse aide de 5 000 et 8 000 euros en une seule fois, hein, bien sûr c'est 8 000 euros pour les 3 ans par exemple de bac ou 8 000 euros pour les 2 ans de BTS. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les prises en charge des OPCO, les opérateurs de compétences qui sont là pour soutenir les entreprises qui souhaitent accueillir des jeunes en apprentissage. Donc le reste à charge pour l'entreprise est quand même très minime, mais encore une fois, tout dépend de l'OPCO, de la convention collective, du diplôme, donc ça fait beaucoup de facteurs et de modalités, mais aujourd'hui, une entreprise qui embauche un apprenti est plutôt accompagnée et aidée financièrement voilà, par rapport à l'apprentissage.
Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect transmission. Les entreprises aujourd'hui, en prenant un apprenti, elles vont pouvoir aussi le former un petit peu à leur manière à elles de travailler. Et donc, on sait aujourd'hui que la difficulté de pas mal d'entreprises industrielles, c'est de recruter. Donc, c'est aussi un pari sur l'avenir. C'est pas forcément se dire, bah voilà, ça va me coûter tant là sur les 3 prochaines années. Les entreprises aujourd'hui, elles font beaucoup ce qu'on appelle de la GPEC, de la gestion prévisionnelle des emplois et carrières. Et ça leur permet de miser aussi sur ces jeunes-là en se disant, on va les former déjà à nos procédés, à nos manières de fonctionner. Donc si à la sortie du diplôme, on arrive à garder et à embaucher ces jeunes définitivement, forcément, l'entreprise sera gagnante au bout du compte.
C'est-à-dire qu'il y a par exemple une anticipation sur des départs à la retraite ?
Tout à fait. On est aujourd'hui sur une pyramide démographique où on a quand même beaucoup de gens qui étaient rentrés dans l'industrie. Vu que souvent, quand on rentre dans l'industrie, on acquiert certains avantages sociaux. On reste souvent dans l'entreprise dans laquelle on est. C'est des grosses entreprises dans lesquelles on peut évoluer tout au long de sa carrière. Donc forcément, on ne cherche pas des fois à aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc beaucoup de gens sont rentrés dans l'industrie dans les années 80, sont là aujourd'hui après 30 ans de carrière, pratiquement allés à 5-6 ans du départ, et ces entreprises-là, elles sont obligées d'y faire face. Et la meilleure manière d'y faire face, c'est de reformer, de transmettre ce savoir, c'est ce qu'on appelle la transmission de savoir, plutôt que de repartir à zéro. Aujourd'hui, une entreprise qui va embaucher quelqu'un qui sort de l'industrie mais qui n'a pas travaillé directement dans son entreprise, elle va devoir quand même repasser par de la formation. Par rapport aux machines, peut-être ce ne sera pas les mêmes machines ou ce ne sera pas les mêmes procédures. Par exemple, si vous travaillez dans l'industrie pharmaceutique, il y a ce qu'on appelle les BPF, les bonnes pratiques de fabrication, qui sont obligatoires pour un nouveau salarié. C'est du temps, c'est de l'argent à mettre en place pour un nouveau salarié. Donc forcément, en passant par de l'apprentissage, le jour où on sera sur l'embauche définitive, on ne repassera pas par tout ça.
Il y a l'idée aussi peut-être que des salariés, disons, plus avancés dans leur carrière, puissent transmettre leur savoir à des plus jeunes. Est-ce que vous faites des binômes dans les entreprises avec des gens plus avancés dans leur parcours ?
Alors, des binômes, oui, et je dirais que c'est presque obligatoire, et c'est même obligatoire. On a dans l'apprentissage ce qu'on appelle un tuteur en entreprise qui accompagne, qui suit le jeune dans toute sa scolarité, mais tout au long de son diplôme. Il est là pour lui transmettre les valeurs de l'entreprise, mais aussi lui transmettre son savoir, comme le disait mon collègue. Donc oui, on est sur des binômes déjà presque définis, à l'entrée même en formation du jeune, avec un tuteur nommé qui va l'accompagner tout au long de son diplôme et qui potentiellement va lui transmettre presque le savoir de son poste pour lui léguer sa place quand ce sera à l'heure pour lui de laisser sa place et de partir à la retraite.
Pas mal de nos tuteurs aujourd'hui en entreprise sont des anciens apprentis du CFAI. En fait, ça leur a donné aussi cette envie-là. Alors après quelques années de carrière, beaucoup des fois nous contactent et nous disent « moi j'aimerais bien, justement, j'ai été en bac pro au CFAI d'Amboise, qui est quand même là depuis un certain nombre d'années, et aujourd'hui j'aimerais à nouveau transformer l'expérience, mais dans l'autre sens. » Donc on a pas mal de nos maîtres d'apprentissage, enfin de tuteurs qui sont des anciens apprentis.
Et alors sur l'idée aussi d'anticiper sur les départs à la retraite pour les entreprises, il y a aussi toute la dimension numérique aussi, parce qu'on suppose que sur certains postes, c'est parfois compliqué et coûteux de former les salariés sur les dimensions numériques. Donc là, de se dire, par le biais de l'apprentissage, on peut recruter potentiellement des jeunes gens qui sont nés dans le numérique. Il y a aussi cet aspect-là.
Alors, ça peut, c'est quand même plus à la marge. Aujourd'hui, c'est plutôt dans le sens inverse. C'est plutôt l'entreprise qui va apporter de la compétence technique aux jeunes. Après, forcément, chaque jeune... par exemple, vous savez, quand on a un jeune qui vient nous voir en sortie de troisième et qui nous dit « moi, pour faire mon CV, c'est hyper compliqué, j'ai pas grand-chose à mettre dedans », forcément, il a peut-être fait qu'une semaine de stage d'immersion en troisième. Nous, on va essayer de creuser justement dans ces compétences, ce qu'on appelle transverses. Est-ce que si c'est un jeune qui est passionné de jeux vidéo, si c'est un jeune... on va pouvoir mettre en avant ses compétences un peu... justement numérique et digital. Après, si c'est un jeune qui fait du sport, on va trouver peut-être plus le côté esprit d'équipe. On va essayer de creuser dans tout ça. Dans tous les cas, un jeune aura aussi à apporter. Mais par contre, je pense que l'entreprise, quand elle va pour recruter un apprenti, elle est plus dans le sens transmission que dans le sens vraiment réception, que le jeune va apporter une vraie compétence.
Eh bien, merci à vous déjà pour toutes ces informations. Ah si, vous avez mentionné un formateur référent aussi. C'est le pendant du tuteur sur le lieu de stage.
Voilà, alors c'est aussi un petit peu comme on a dans la scolarité un professeur principal. Ça va être le formateur référent technique de la formation en tant que tel, qui va devoir lui effectuer un suivi des apprentis en entreprise avec un livret d'apprentissage qui va suivre le jeune tout au long de son diplôme et de sa carrière au sein du CFAI par rapport aux compétences qui sont attendues techniquement à un moment donné dans la formation. Mais on va aller faire un point d'étape en disant aujourd'hui on est censé savoir lire un schéma, comprendre un schéma électrique, est-ce qu'en entreprise il est capable de le faire, et quel est son niveau en fait aujourd'hui dans l'entreprise, et quel est le niveau que vous attendiez, quel est son niveau actuel, et on fait des petits points d'étape comme ça. Et ça, c'est le rôle du formateur référent, un petit peu comme le professeur principal qui peut faire des points d'étape dans la scolarité d'un jeune.
Je vous propose d'écouter un dernier portrait. Alors ça date aussi de 2020, donc peut-être il y a des choses qui n'existeront plus, vous nous le direz juste après. On est toujours dans la Méridienne sur Radio Campus Tours.
Avant, j'étais au collège Alphonse Karr à Mont-Doubleau et j'étais intéressé au début par la menuiserie. Mais un jour, on m'a dit que dans la menuiserie, on faisait maintenant que de la pose majoritairement. Et on m'a après parlé de la chaudronnerie où là, on nous disait vraiment qu'on travaillait vraiment de A à Z et qu'on faisait tout nous-mêmes. Du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers la chaudronnerie et aujourd'hui, je suis content.
Ce qui m'a donné envie d'être chaudronnier, en fait, c'est que c'est jamais la même chose, en fait. On touche un peu à tout. C'est manuel, enfin, moi je sais que j'aime bien faire des trucs avec mes mains. Je sais pas, j'aime bien tout ce qui est soudure et réalisation en fait. Que ce soit par exemple des cuisines, que ce soit des échelles de pompiers, etc. Moi j'adore ça.
En fin de collège, on m'avait proposé cette option, parce qu'à la base je voulais faire mécanique, mais on m'a dit que je travaillais bien tout ce qui était manuel. et on m'a plus orienté vers la chaudronnerie. Je me suis renseigné, j'ai été voir Madame Luzo. Du coup, j'ai fait une visite de l'établissement et ça m'a plu. Et je me suis orienté vers cette option.
Je travaille à l'atelier Ferrandon à Mondoubleau. Je travaille de l'industrie. Comme pour les particuliers, on est trois et comme moi, je suis le seul apprenti. Du coup, on s'occupe que de moi et du coup, c'est plus facile pour apprendre.
Je travaille dans une entreprise où il y a pas mal de monde. L'entreprise s'appelle Rosinox. Je fais spécialement des cuisines, donc des cuisines en inox et en acier qui sont distribuées un peu partout dans le monde. Je me suis bien fait accepter dans l'entreprise, donc ça, c'est déjà un bon point, quoi. Ils m'ont bien appris le métier, parce qu'au début, c'était compliqué pour moi, parce que je n'avais jamais fait. Donc ils ont bien pris le temps de m'apprendre, donc ça, c'est déjà cool. Ouais.
Je suis à l'entreprise Lemoux, à Châteaudun. Je fais des pièces industrielles, des portails, surtout pour des particuliers. On fournit beaucoup en ferraille. On aide aussi les clients à cintrer, à couper des tôles, débiter des tubes quand ils ont besoin.
Alors du coup, on est 14 dans la classe de CAP pour être chaudronnier. C'est bien parce que du coup, on est en petit groupe et du coup, on peut facilement apprendre parce que les profs sont plus auprès de nous. On est tous solidaires, on s'entend tous bien. Il y a une très bonne ambiance. Bon, même parfois, si une personne a un petit peu de mou, on l'aide à remonter la côte.
Moi, je suis au foyer, du coup, ça se passe pas trop mal. Il y a quand même quelques difficultés de temps en temps. Mais sinon, c'est cool parce qu'on a déjà nos potes. Donc on peut quand même rigoler pas mal, quoi. On s'occupe pas mal. En même temps, on a la salle de baby-foot, de musculation, de cinéma. Donc si on a besoin de quelque chose, on peut forcément s'occuper, quoi. On trouve quelque chose à s'occuper, de toute façon. Pour moi, ce qui est bien, c'est qu'on est tous solidaires. Donc tout le monde s'entend avec tout le monde et voilà, quoi. C'est ça qui est bien aussi.
Au pôle formation, c'est une bonne entente. On rigole tous, mais en travaillant, on s'entend bien aussi avec les formateurs qui nous aident beaucoup et qui éventuellement nous expliquent quand on en a besoin. Et c'est vraiment une bonne entente et une bonne ambiance.
Moi, après mon CAP, si je le réussis déjà, j'aimerais faire un bac pro pour pouvoir continuer mes études et apprendre diverses façons de travailler, du coup, pour m'améliorer en fin de compte. J'aimerais bien rester dans mon entreprise parce qu'ils ont un super accueil, quoi. Quand je suis là-bas, ils sont tout le temps en train de sourire. Puis même, j'apprends beaucoup de choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais j'apprends de plus en plus, donc j'aime bien.
Après mon CAP, j'envisagerais de faire un bac pro, parce que pour moi, c'est une suite logique de continuer dans le métier, parce qu'il me plaît. Puis c'est un métier où il y aura toujours du travail, il y aura toujours besoin de mains. Du coup, j'envisage le bac pro et pourquoi pas plus, ou même après, directement envisager le travail.
Après le CAP, j'ai voulu continuer pour faire des formations ici, parce qu'on a des bons formateurs. Et du coup, c'est pas la peine pour trouver un autre CFA.
Voilà, nouveau portrait à retrouver sur la chaîne YouTube du CFAI Centre-Val-de-Loire, pôle formation UIMM. Alors ça réagit à nouveau dans le studio. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire de ce portrait, enfin de ces portraits d'apprentis CAP RIX?
Eh bien, ce qui est ressorti quand même de ce portrait, c'est qu'il a l'air de bien se sentir au CFA et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai qu'on on parlait tout à l'heure du foyer qui est mis à disposition des jeunes. On apparente souvent ça à un internat, mais c'est vrai qu'on a une certaine liberté au foyer quand même, où il y a, comme il le disait, des salles de cinéma, une salle de billard. On essaie quand même de mettre les jeunes qui restent là au CFA pendant leur alternance à l'aise et entre eux, etc. Donc oui, on a une bonne entente au sein du groupe classe, on a une bonne entente aussi au sein des formateurs, et ça, je pense que c'est important. Et la chaudronnerie, oui, c'était aussi un domaine porteur. On parlait de la maintenance tout à l'heure. C'est vrai que la chaudronnerie se fait plutôt sur le CFA de Châteaudun, comme il en parlait. Mais c'est aussi un métier, une formation qui est très porteuse. Hein. Donc la chaudronnerie, pour faire très simple, c'est le travail du métal en feuille. On va prendre l'exemple, comme souvent on le prend, du petit carré, du cube que vous faisiez peut-être en primaire en papier. Donc on commençait par dessiner un patron, on commençait par plier les bords et puis finalement on les assemblait en les collant. Et bien là, le travail de métal en feuille, c'est un petit peu la même chose, imagée. On va prendre une feuille de métal que l'on va sur laquelle on va dessiner, sur laquelle on va couper, qu'on va plier et puis finalement pour assembler le métal, et ben on finit par souder. Donc voilà un petit peu l'image de la chaudronnerie. Mais oui, voilà, il nous a fait beaucoup sourire parce que oui, ils sont tous solidaires et c'est vrai, c'est une vraie entente et ça peut aussi peut-être rassurer les jeunes qui justement sortent de troisième, qui souhaitent s'orienter sur un CAP. Mais finalement, ils se retrouvent tous un petit peu dans la même situation et ils finissent par créer une belle relation et un bon groupe classe, comme on dit.
Les jeunes qui parlent aux jeunes, c'est le meilleur argument pour nous, hein, parce que nous, on peut présenter les métiers, en parler, mais il n'y a rien de mieux quand ils se rendent compte et qu'ils peuvent vraiment échanger sur le parcours. Notamment, on a aussi des mercredis technologiques qui sont ouverts à tout le monde. Hein. Là, cette année, il y en aura deux sur le site d'Amboise, le 18 mai et le 6 juillet. C'est des après-midi où vraiment un jeune peut venir et toucher aux machines, faire un atelier avec un de nos apprentis, donc qui passe l'après-midi ensemble et ils échangent et souvent ça fait des belles rencontres.
Je me demandais en fait s'il y a des étudiants qui sont à l'université de Tours et qui justement se rendent compte « Ah là là, c'est pas pour moi, je dis n'importe quoi, j'espère ne vexer personne, mais la fac de maths, de philo, faudrait que je trouve un troisième. » Mais du coup, voilà, et qui disent « Vraiment, c'est pas du tout mon truc, pourtant ces métiers-là, ces formations-là m'intéresseraient. »
Souvent, on va rencontrer ce genre de profil sur les forums ou sur les salons. Il y a beaucoup d'événements sur la région de Tours. Alors notamment, là, cette année, par exemple, il y a eu le salon de l'étudiant à jouer les tours au mois de novembre, il y a eu la nuit de l'orientation, il y a eu pas mal de choses comme ça. Et c'est très souvent sur ce genre d'événement qu'on va rencontrer un jeune parce que lui, effectivement, il n'est pas forcément en phase avec la formation qu'il avait choisie et il va se donner un maximum de moyens après pour trouver autre chose parce qu'il n'a pas envie d'arrêter ses études. Donc justement, on va souvent les rencontrer sur ce genre d'événement. Ou alors après, parce qu'on parle souvent de jeunes, quand ils sont sur des niveaux d'études supérieures, ils ont cette capacité à chercher les informations, à aller sur Internet, ils vont nous trouver, ils vont nous appeler, ils vont passer en direct par notre site Internet. Voilà, on va souvent avoir le lien comme ça.
Alors cette émission s'approche déjà de sa fin, vous avez dit beaucoup de choses pour nos auditeurs, alors peut-être qu'avant de terminer cette émission, vous voudriez nous rappeler comment on fait si on a envie de vous contacter, si on veut visiter le site d'Amboise par exemple.
Alors le mieux c'est soit de passer par le site internet cfai-centre.fr. Sur ce site là vous allez retrouver l'ensemble des coordonnées. Donc moi je suis Damien Berthet, je suis le chargé de sourcing donc pour les départements 36, 37, 41. Il y a un de mes homologues, Yannick Ferretti, qui va faire les autres départements. Et pareil, vous retrouverez ses coordonnées sur le site internet. Et puis après, au niveau des conseillers emploi formation, si vraiment le projet il est défini, qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, et que là, c'est plus pour vraiment après aller trouver l'entreprise et s'inscrire chez nous, eh ben, on a un conseiller formation par département. Lise Croix est donc la conseillère emploi formation du 37. Et puis après, vous allez retrouver les coordonnées de chaque conseiller sur chaque département. En sachant que vous allez avoir nos coordonnées directes. C'est nos numéros de portable directs, c'est nos adresses mail directes. Il n'y a pas à passer par des intermédiaires. Vous pouvez vraiment rentrer en contact avec nous. Et comme je le dis, parce que voilà, sans vouloir jouer les personnes approchant de la quarantaine, mais tous les moyens sont bons pour nous contacter. On est ouvert au SMS, on est par mail, par les réseaux, peu importe. On est là pour répondre à toute interrogation sur ce beau métier qui est l'industrie.
Voilà, donc avis aux timides, vous pouvez faire autrement que de vous rendre sur place directement ou d'appeler par téléphone. N'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup Lise Croix et Damien Berthet d'être venu nous présenter le CFAI Centre Val-de-Loire. On va se quitter en musique. On va écouter Amina Alaoui. Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes, évidemment. Et je précise que cette émission sera retrouvée en podcast sur notre site radiocampustour.com.
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني وقد صار قلبي قابلا كل صورة لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى للغزلان و
وادير لربا وبيت لأوسان وكعبة طائف وبيت للأوسان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحاف قرآن أدين بدين لحوب أن تواجهت ركائب أدين بدين لحوب أن تواجهت ركائب فالحب ديني وإيماني فالحب ديني.